SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Rétrospective, et aujourd'hui nous sommes le 8 juin et dans notre rétrospective du jour, Valentine Saboureau nous emmène en Nouvelle-Zélande, le jour où le pays s'affranchit de tout lien avec le nucléaire en votant une loi historique. Elle revient sur le processus qui a conduit à cette décision ainsi qu'à ses conséquences, récit avec des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
C'est l'histoire d'une loi emblématique et courageuse. Elle a été votée le 8 juin 1987 par la Nouvelle-Zélande et elle positionne le pays à l'avant-garde de la lutte pour le désarmement et le contrôle des armes nucléaires. Portée par la population et le Premier ministre de l'époque, David Lange, elle signe l'émancipation de la jeune nation par rapport aux grandes puissances présentes dans la région, en particulier la France et les États-Unis. En 1951, quand la Nouvelle-Zélande signe l'accord de sécurité ANZUS qui la lie aux États-Unis et à l'Australie, elle n'a pas encore d'état d'âme relatif aux armes nucléaires. Son esprit est tranquille, mais les choses vont évoluer. Les Néo-Zélandais prennent peu à peu conscience de leur patrimoine naturel et les essais qui se multiplient dans le Pacifique les laissent de moins en moins indifférents. 5 août 1963, les États-Unis, l'Angleterre et la Russie signent un traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. La France, elle, continue ses essais, notamment en Polynésie française à Mururoa. Elle se veut rassurante, comme en témoigne ce reportage de 1968.
C'est suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qu'a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française. Scénario désormais classique, observé depuis le croiseur de Grasse à 70 km du lieu de l'explosion. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT, et puis l'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif.
Entre 1966 et 1996, 196 essais sont effectués par la France, malgré les récriminations de la communauté internationale, la fureur combinée de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui vont jusqu'à porter plainte auprès de la Cour de justice internationale. Autre motif d'inquiétude cependant, le passage de bâtiments à propulsion nucléaire américain en Nouvelle-Zélande qui provoque régulièrement la colère des militants en 1976, 77 et 78. L'incident du Rainbow Warrior, le bateau coulé par deux espions français à Auckland qui fait un mort à cette occasion, achève de placer le nucléaire au cœur de la campagne législative de 1984. Le Labour néo-zélandais axe sa campagne sur la dénucléarisation du pays et gagne. En 1985, le Premier ministre David Lange accepte même de se rendre à Oxford en Angleterre pour défendre la position de son pays dans un discours devenu célèbre.
Rejecting nuclear weapons is to assert what is human over the evil nature of the weapon. It is to restore to humanity the power of decision. It is to allow a moral force to reign supreme. It stops the macho lurch into mutual madness. And for me, the position of my country is a genuine long-term affirmation of this proposition that nuclear weapons are morally indefensible, and I support that proposition.
Le 8 juin finalement, le New Zealand Nuclear Free Zone Disarmament and Arms Control Act 1987 est voté et promulgué. La loi prohibe le nucléaire sur le sol, l'espace et les eaux de la Nouvelle-Zélande. Les bateaux à propulsion nucléaire sont interdits de passage, sauf exception pour les bâtiments en détresse. L'acquisition, le stockage et les tests d'équipement ne sont plus possibles. À cela s'ajoute l'implémentation de différents traités, dont celui relatif à la non-prolifération des armes nucléaires ou celui de Rarotonga concernant l'ensemble du Pacifique Sud. Cette décision coûtera cher à la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis la considéreront désormais comme une amie et non plus une alliée. Quant à la France, elle fera le maximum pour lui fermer le marché européen. La Nouvelle-Zélande recevra cependant la médaille d'argent du Future Policy Award, décerné par le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies en 2013. Malgré une extension non votée du texte, la Nouvelle-Zélande reste très attachée à ses prises de position antinucléaires, ce qui explique en partie ses réticences actuelles à adhérer à AUKUS, l'accord de coopération militaire qui rassemble à ce jour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était l'impératrice et Fabiana Marton et cette chanson Danza Marilou. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Allez, page sportive maintenant dans notre émission. Personne ou presque ne connaissait son nom il y a encore quelques années. Et pourtant, son œuvre est immense. Alice Mila s'est battue toute sa vie pour permettre aux femmes de participer à des compétitions sportives jusqu'à créer des Jeux Olympiques entièrement féminins au début du XXe siècle. Des combats avant-gardistes qui font écho à ceux qu'il reste à mener pour une meilleure visibilité des femmes dans le sport.
Nous sommes devant la tombe d'Alice Milia. C'est une tombe extrêmement simple. Sa sépulture est aussi modeste que son œuvre est grande.
À l'origine, il n'y avait même pas de nom ni de prénom sur la tombe d'Alice Milia dans ce cimetière nantais. Une inconnue dont Stéphane Gachet a rédigé une biographie. Dans les années 20, Alice Milia, passionnée d'aviron, milite pour que les femmes intègrent les compétitions sportives contre le discours prôné alors par la religion.
La femme ne doit pas se dévêtir, ne doit pas s'exposer en public.
Et certains médecins.
La femme doit absolument se préserver, son seul devoir est d'enfanter.
Mais en 1915, Alice Milia prend la tête d'un club de gymnastique à Paris qu'elle ouvre à d'autres sports. Pour l'époque, c'est plus que novateur, mais le contexte est favorable.
Un événement important qui survient, la Première Guerre mondiale, les hommes vont libérer leur place aux usines et dans les terrains de sport.
Alice Milia demande alors au comité olympique d'inscrire les épreuves féminines d'athlétisme aux JO, opposition de Pierre de Coubertin.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs.
En 1922, elle crée alors les premiers Jeux féminins à Paris. Succès immédiat jusqu'à la dernière édition de 1934.
On rapporte qu'il y a plus de 20 000 spectateurs dans les stades. Des performances sportives qui n'ont rien à envier aux hommes 10 ans plus tôt.
Mais dans les années 40, sous le régime de Vichy, cet héritage est complètement gommé.
C'est comme si le sport féminin des années 20 et 30 n'avait jamais existé.
Si bien qu'Alice Milia décède dans l'indifférence générale. Mais depuis quelques années, son nom refait surface. À quelques pas du cimetière, une école en construction.
Le premier établissement scolaire de France a porté le nom de cette femme.
Et à Paris.
Alors, bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Sonia, je suis guide conférencière.
Une visite guidée menée par l'association Feminist in the City et la fondation Alice Milia. 20 personnes, ce jour-là, sur les traces de quelques figures du sport féminin.
Et on essaie de les joindre à des enjeux contemporains liés au féminisme.
Début de visite devant l'entrée du Comité National Olympique.
Il y a deux statues qui trônent ici dans le hall. Sur la droite, on a le baron Pierre de Coubertin et sur la gauche, regardez qui voilà, c'est Alice Milia. Il a fallu 7 longues années pour qu'elle trône ici.
Caroline est l'une des participantes du jour.
Ça participe à la faire sortir de l'oubli, ce qui est indispensable.
Mais ses combats sont loin d'être achevés, dit-elle.
C'est le nombre de femmes, mais c'est aussi l'argent qu'il y a dans les fédérations, qui ne va pas être du tout équivalent. Enfin, je veux dire, on est encore loin d'avoir vraiment une équité dans la pratique sportive entre hommes et femmes. Donc le combat continue.
Pour la première fois aux Jeux de Paris, il y aura exactement le même nombre de femmes que d'hommes engagés. Parité atteinte plus de 100 ans après les premiers Jeux féminins.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Avec Perdre la tête, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de juin. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième partie de notre mini-série consacrée à l'histoire de l'immigration en Australie. On va couvrir aujourd'hui une période qui, grosso modo, commence au début-milieu des années 70 jusqu'à la quasi-fin du XXe siècle. Et c'est une période qui est marquée par un changement radical dans la politique migratoire australienne et qui consiste à vraiment faire sienne le multiculturalisme et à accepter des immigrés qui ne viennent pas seulement d'Europe, mais de un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un changement majeur. On a, comme d'habitude avec nous, l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, on a quitté dans la troisième partie l'Australie, en gros, à la fin des années 60. On a expliqué que déjà, en termes migratoires, moins par choix que par nécessité, l'Australie élargit un petit peu ses critères d'acceptation de nouveaux immigrés. Mais En Australie même, à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses également sur le plan des revendications des premiers peuples d'Australie, les aborigènes. Il y a d'une certaine manière un écho en Australie et au sein des communautés aborigènes vis-à-vis de ce qui est en train de se passer aux États-Unis à travers le mouvement des droits civiques.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, on avait fait le lien entre immigration et traitement des populations aborigènes dans deux épisodes précédents. Ce lien est encore d'actualité dans les années 60-70, où en fait, les populations aborigènes réclament leurs droits, réclament un retour de certaines terres ancestrales et se plaignent du racisme prévalent en Australie. Et ce racisme, évidemment, il peut se comprendre dans le cadre d'une Australie blanche. On l'a dit, il y a la période, premier épisode, période coloniale britannique prise de possession. Deuxième épisode, la politique d'Australie blanche où effectivement seuls les Britanniques blancs ou alors les blancs non britanniques mais de façon plus délicate pourraient venir s'installer en Australie. Troisième épisode, l'ouverture après la Deuxième Guerre mondiale parce que l'Australie se rend compte qu'elle fonce droit dans le mur parce que sa population n'est pas assez importante pour soutenir une croissance économique et puis pour se défendre militairement. Mais cette ouverture, elle se fait aux blancs, hein, de manière générale. Donc, dans les années 60, on est encore dans un système où l'immigration a pris de l'essor en Australie, mais où elle demeure blanche. Et le racisme, à la fois projeté vers les personnes en dehors de l'Australie, est un racisme qui trouve ses origines également dans celui qui est mis en œuvre envers les peuples premiers australiens. C'est un moment, donc, les droits civiques, on le voit aux États-Unis, Martin Luther King, tous ces grands moments de l'histoire américaine, tout ça se produit également en Australie, et c'est un moment où il y a des changements dans un monde de l'après-Holocauste. On comprend bien que le racisme biologique est une aberration. Et donc, vous avez une partie croissante de la population australienne qui commence aussi à voir les bénéfices d'un programme d'immigration massif, qui évolue sur la question du racisme, qui commence à soutenir les aborigènes. Toute fin des années 60, vous avez un référendum en Australie qui autorise le gouvernement fédéral à compter les populations aborigènes qui, avant, n'étaient pas recensées. Donc vous allez me dire, oh, c'est un tout petit changement. Mais non, c'est un changement très important à plein d'égards, mais ce qu'il signale, c'est que la grande majorité des Australiens commencent à percevoir la question aborigène, mais aussi le racisme à leur égard, comme quelque chose qui n'est plus de ce temps, en fait. Et en parallèle, vous avez une poussée extérieure. Vous avez la Convention des réfugiés des Nations Unies en 1951, le protocole, pareil, en 1967. Donc, vous avez une pression extérieure qui s'exerce sur l'Australie pour accueillir des populations non blanches. Donc, l'Australie résiste, mais progressivement, la politique de l'Australie blanche, dans les années 60, commence à s'effriter.
Concernant toujours les aborigènes et la vision qu'en ont les Australiens non aborigènes, est-ce que cette évolution dans la démographie contribue à ce changement de regard? Est-ce que, au contraire, alors que on accepte de plus en plus facilement des gens qui ont l'audace de ne pas être anglo-celtiques, on continue à cantonner les aborigènes vraiment, enfin, à part de la société, à les considérer quasi comme pas humains? Ou est-ce que ça change, et est-ce que ce changement est lié donc au fait que la population australienne est de plus en plus diverse?
Alors ça, c'est une autre question. Elle est plus difficile d'y répondre dans la mesure où les groupes de nouveaux migrants qui arrivent en Australie sont généralement concentrés, pas toujours, mais généralement concentrés dans des milieux urbains. Or, la population aborigène, elle, de manière générale, encore à cette époque, se trouve plutôt dans des milieux ruraux. Donc, les Australiens qui rentreraient en contact avec ces groupes ne sont pas les mêmes. Donc, la manière dont le traitement des immigrés évolue par rapport au traitement des aborigènes suit une progression lente et difficile vers l'ouverture, vers la baisse du racisme, mais elle ne peut pas nécessairement être mise sur le même plan. Bien que, bien évidemment, comme on l'avait vu, les politiques d'immigration et de racialisation des populations aborigènes en Australie aient toujours été intimement liées parce qu'elles correspondaient à des politiques d'assimilation. Donc, pour répondre à votre question, c'est assez délicat, mais pour moi, ce qui est important de retenir, c'est à la fois une évolution interne à la population australienne. Les années 60, vous avez la génération baby boom de l'après-deuxième guerre mondiale qui a conscience de ce que le racisme peut faire, à savoir l'Holocauste, et qui s'ouvre, c'est un monde qui s'industrialise et qui se globalise à vitesse accélérée. Et le racisme n'est plus de l'ordre du jour. Un des derniers pays, vraiment, ce sera l'Afrique du Sud. Et quand on connaît les volets de bois vert, et à raison que l'Afrique du Sud se prenait, l'Australie a bien vu au tournant des années 60 et 70 qu'elle allait devenir un paria de la communauté internationale si elle continuait ces politiques racistes à la fois vis-à-vis des peuples premiers aborigènes et à la fois vis-à-vis des migrants non blancs.
Alors, la politique de l'Australie blanche dont on a parlé il y a deux épisodes, elle est encore en place à ce moment-là, mais ça fait déjà quelques années qu'elle bat quand même un peu de l'aile. Elle est officiellement abandonnée en 1973 et remplacée, enfin, en tout cas, on adopte une démarche vraiment à l'opposé avec l'adoption d'une loi sur le multiculturalisme. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont la politique migratoire fonctionne?
Je vais revenir sur un point d'abord avant de répondre à votre question. Vous avez dit que cette politique de l'Australie blanche est abandonnée en 1973. Alors ça, c'est un coup de com' du gouvernement de gauche Whitlam.
Ah. Et je me suis laissé avoir, pardon.
Non, mais enfin, à raison, parce qu'en fait, c'est le récit dominant, hein, que c'est le bienfait de la gauche qui, dans son immense humanité, aurait ouvert totalement les frontières australiennes à partir de 1973. Et bien sûr, le ministre de l'époque, Al Grassby, ministre de l'immigration en 1973, déclare à grand renfort de diffusion dans les médias que la politique d'Australie blanche est morte. Donnez-moi une pelle et je vais l'enterrer. Hein, voilà ces mots. It is dead, give me a shovel and I will bury it. Et donc, en 1973, Grassby donne un discours qui s'appelle A Multicultural Society, une société multiculturelle pour l'avenir. En réalité, la politique d'Australie blanche, elle est démantelée progressivement parce que, comme je l'ai dit, il y a des accords bilatéraux avec des États dont les populations n'étaient pas traditionnellement considérées comme blanches, la Turquie par exemple en 1968, mais sous le gouvernement Holt, elle est déjà largement assouplie à partir de 1966. Même avant, le test de dictée dont j'avais parlé dans le deuxième épisode est abandonné en 1958. Donc, progressivement, vous avez tout ce système de loi que l'on appelle la politique de l'Australie blanche, qui en réalité correspond à des législations bien réelles, qui sont progressivement amendées et effectivement mises quasiment totalement à la poubelle en 1973. Mais je vais ajouter un bémol. Le gouvernement Whitlam refuse d'accueillir les réfugiés vietnamiens. Il faudra attendre le gouvernement suivant, de Malcolm Fraser en 1975, de droite, pour accueillir de façon humanitaire, en fait, pour des motifs humanitaires, les populations qui évacuent le Vietnam. Donc, quand on dit que la politique de l'Australie blanche a pris fin sous Whitlam, c'est à la fois vrai et c'est à la fois raccourci. C'est-à-dire que la fin de cette politique prend plusieurs décennies pour être totalement démantelée. En revanche, le point sur lequel vous avez totalement raison, c'est que le récit national sur la politique d'immigration a changé. Que ce soit Malcolm Fraser qui est dans l'opposition en 73-74 ou le gouvernement de gauche de l'époque, le nouveau terme à la mode, c'est le multiculturalisme. Et donc, c'est un moment aussi où le gouvernement combat le racisme. En 1975, vous avez la loi contre la discrimination raciale. C'est à la fois une politique extérieure et intérieure. Et puis, vous avez le soutien bipartisan, à la fois de gauche et de droite, pour l'établissement d'une société multiculturelle qui s'enrichirait à la fois économiquement, mais aussi culturellement.
Sur cette conversion au multiculturalisme, est-ce que elle est sincère? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si on l'adopte parce que, pour le dire vite, le racisme, c'est pas bien, ou est-ce que c'est parce que l'Eldorado australien, qui a attiré les décennies précédentes des centaines de milliers d'immigrants européens, ne fonctionne plus tout simplement parce que en Europe il y a eu les 30 glorieuses, que la plupart des pays se sont remis des ravages de la Deuxième Guerre mondiale et que le niveau de vie en Europe, dans la plupart des pays, a largement rattrapé celui constaté en Australie.
C'est la question du million de dollars. Elle est tout à fait pertinente et j'ai envie de vous répondre en vous disant que c'est un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la sincérité. Vous avez des nouvelles générations dans les années 50, enfin qui naissent dans les années 50, qui arrivent à l'âge adulte à la fin des années 60, début des années 70, et ils trouvent que la génération de leurs parents et de leurs grands-parents s'est trompée. Vous avez réellement un changement idéologique qui est en cours et qui est en cours dans tout le monde occidental. L'aberration de la classification des races, etc., c'est has-been. Donc, vous avez un changement de cadre idéologique, mais vous avez aussi des raisons économiques. Les succès économiques australiens des années 50, 60, 70 n'ont pu être réalisés que grâce à l'immigration. Que de n'importe quelle couleur politique que vous soyez, c'est une réalité historique qui est absolument indéniable. Sans cet afflux de population, il n'y aurait pas eu cette croissance en Australie, il n'y aurait pas eu le développement qu'elle a connu, et c'est un développement qui est soutenu à l'époque par les Australiens qui en voient les bénéfices. C'est le moment où les voitures arrivent, où les frigidaires arrivent, où les congélateurs arrivent. Donc tous ces biens de consommation, cette activité industrielle, le développement de la sidérurgie en Australie, le développement des mines, se fait sur, en grande partie, des immigrants. Pas seulement des immigrants qui vont tenir une pelle, des ingénieurs également, énormément d'ingénieurs. L'Australie a, comme de nombreux pays, la France en fait partie, a très largement fermé les yeux sur le passé nazi de certains Allemands qui avaient de très bonnes qualifications pour ces industries. Donc le contexte a changé et l'immigration, qui était vue comme quelque chose qui faisait peur au début du XXe siècle, est vue comme un avantage à la fois démographique, mais aussi économique. Le souci, vous l'avez rappelé, c'est que l'Australie n'est pas le seul pays à chercher des migrants. En France, dans les années 40, enfin pas les années 40, mais seconde moitié des années 40, les années 50, les années 60, c'est pareil. Vous avez une expansion formidable du nombre de migrants pour des raisons économiques, pour reconstruire le pays, mais pas seulement pour reconstruire le pays, pour le projeter dans une nouvelle décennie et une nouvelle ère industrielle.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
C'était Tout oublié d'Angèle sur le programme en français de Radio SBS. La fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.